Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le français n'existe pas est un essai de vulgarisation linguistique publié en 2020 par Le Robert, signé par Arnaud Hoët et Jérôme Piron, avec une préface d'Alex Vizorek. Adapté de leur chronique estivale, Tu parles. Diffusé sur France Inter en 2019, le livre rassemble de courts textes qui interrogent ce que l'on appelle habituellement le bon français. Les deux auteurs, anciens enseignants et linguistes de formation, ne nient pas l'existence des pratiques du français, le titre vise plutôt l'idée d'un français unique pur, stable et naturellement supérieur à ses variantes. Avec humour, références historiques et contributions de spécialistes, ils examinent l'orthographe, la grammaire, les emprunts, la féminisation, les normes scolaires et le rôle de l'Académie française. Leur objectif n'est pas de prescrire un relâchement général, mais de distinguer les exigences utiles à la compréhension des conventions qui servent surtout à trier socialement les locuteurs. L'ouvrage défend ainsi un rapport plus critique, informé et moins anxieux à la langue. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le titre conteste le mythe d'un français unique et immobile. Le titre ne signifie pas que les francophones ne partagent aucune langue. Il vise une représentation très répandue, celle d'un français homogène, dont les règles auraient toujours été fixées et dont chaque écart constituerait une dégradation. Hoët et Piron rappellent au contraire que les langues se définissent par des usages multiples, situés dans le temps, les régions, les groupes sociaux et les circonstances de communication. L'histoire du français montre que sa diffusion sur le territoire a été progressive et que ses formes ont continuellement varié. Cette perspective rend moins crédible le récit d'un âge d'or linguistique que les locuteurs actuels auraient abîmé. Les auteurs traitent aussi des expressions réputées fautives, tels que au coiffeur, afin de montrer que le jugement normatif n'est pas forcément un jugement sur l'intelligibilité ou la logique. Une tournure peut être courante et parfaitement comprise tout en restant refusée dans certains contextes écrits ou institutionnels. La nuance est centrale, constater un usage ne revient pas à imposer son emploi partout. Le livre propose donc de remplacer la question simpliste de savoir si cela se dit par des questions plus précises qui le dit, dans quelle situation, avec quel effet, et selon quelles normes. La langue apparaît alors comme une pratique collective vivante, plutôt que comme un objet figé à conserver intact. Deuxièmement, l'orthographe est analysée comme un code historique aux règles inégalement utiles. L'orthographe constitue le terrain privilégié de l'ouvrage. Dans la continuité du spectacle, la convivialité. Hoët et Piron attirent l'attention sur l'écart entre un système graphique historiquement accumulé et les besoins réels de la communication. Ils ne réduisent pas l'écriture à une simple transcription de l'oral, une orthographe stabilisée facilite la lecture et les échanges entre personnes éloignées. Mais ils contestent l'idée que toutes ces complications possèdent la même justification. Certaines graphies, lettres muettes ou règles d'accord, sont héritées de transformations anciennes, de décisions éditoriales ou de préoccupations savantes, sans apporter une information indispensable aux lecteurs contemporains. L'accord du participe passé avec avoir devient un exemple particulièrement révélateur. La règle est difficile à appliquer, souvent absente de la parole et peu déterminante pour comprendre le sens. Les auteurs ne demandent donc pas de célébrer l'erreur pour elle-même. Ils invitent à évaluer rationnellement le coût cognitif et scolaire d'une convention face à son utilité. Leur recours aux rectifications orthographiques de 1990 et à des propositions de simplification relève de cette logique. Ces choix sont présentés comme discutables et non comme de nouveaux dogmes. L'enjeu est de pouvoir réformer ou assouplir certaines conventions sans faire croire que l'on détruit la langue, laquelle ne se confond pas avec son orthographe. Troisièmement, la critique de l'Académie française vise l'autorité plus que la langue. Une cible récurrente du livre est l'autorité symbolique accordée à l'Académie française. Les auteurs la traitent avec une ironie assumée, mais leur objection est institutionnelle, l'Académie est souvent imaginée comme l'instance qui créerait ou garantirait la langue, alors que les usages linguistiques existent avant ces décisions et les dépassent largement. Ces avis peuvent avoir du poids dans certains milieux, mais ils ne constituent pas à eux seuls une description scientifique des pratiques des francophones. Cette mise à distance permet également de relire plusieurs légendes nationales, notamment celles qui présentent l'histoire du français comme une marche continue vers l'unité et la perfection. Hoët et Piron soulignent que la normalisation d'une langue est liée à des choix politiques, scolaires et sociaux. Elle ne découle pas mécaniquement de qualités intrinsèques. La question de la féminisation des noms de métiers illustre cet enjeu. Refuser ou accepter certaines formes ne relève pas seulement de la grammaire, mais aussi de la visibilité des personnes et de l'évolution des usages. Le livre ne remplace pas une autorité par une autre. Il valorise plutôt le travail des linguistes, qui décrivent les usages, leurs variations et leurs mécanismes, sans confondre description et condamnation. Cette distinction aide le lecteur à examiner les prescriptions traditionnelles au lieu de les recevoir comme des vérités intemporelles. Quatrièmement, les fautes révèlent une glottophobie et une insécurité linguistique. Le livre relie la question des fautes à des conséquences sociales concrètes. Une erreur d'orthographe ou une prononciation associée à un milieu peuvent servir à disqualifier une personne bien au-delà de ce que son message permet d'évaluer. Houet et Piron abordent ainsi la glottophobie, soit la discrimination fondée sur la manière de parler ou d'écrire. Cette notion ne nie pas qu'il existe des attentes de registre dans l'école, l'administration ou le travail. Elle demande plutôt d'interroger la proportion entre ces attentes et la violence des jugements portés. Lorsque la conformité à des règles arbitrairement complexes devient le premier critère de valeur, elle peut masquer les idées, les compétences et la capacité réelle à communiquer. L'orthographe devient alors un marqueur social particulièrement puissant, parce que l'école l'enseigne et que beaucoup la présentent comme une preuve de sérieux ou d'intelligence. Les auteurs critiquent l'angoisse qui résulte de cette sacralisation. Beaucoup de locuteurs se censurent, craignant d'être corrigés ou ridiculisés. Leur approche ne consiste pas à supprimer toute norme, car une norme de situation demeure utile. Elle consiste à rendre ses fonctions explicites et à éviter de transformer une convention écrite en verdict moral. Le lecteur est ainsi conduit à distinguer une correction nécessaire à la clarté d'une police du langage qui maintient des hiérarchies culturelles. En dernier lieu, l'école peut enseigner les normes sans étouffer l'observation des usages. La réflexion sur la grammaire scolaire prolonge directement la critique de l'orthographe. Houet et Piron observent que l'enseignement peut parfois privilégier la mémorisation de règles et la chasse aux écarts au détriment de la compréhension des mécanismes. Linguistique. Dans cette logique, la dictée et l'accord deviennent des fins en soi, tandis que la syntaxe, les registres, le sens et la situation de communication passent au second plan. Les auteurs ne se soutiennent pas qu'il faudrait abandonner l'enseignement du français écrit. Ils invitent à mieux expliquer pourquoi une forme est attendue dans un cadre donné, ce qu'elle permet et ce qui distingue une règle de structure d'une convention graphique. Cette pédagogie est particulièrement importante pour les élèves dont la variété de français familial ou régional ne correspond pas immédiatement à la norme scolaire. Leur parler ne doit pas être traité comme une absence de langue, mais comme une ressource différente dont il faut apprendre à maîtriser les contextes d'emploi. Le livre défend aussi une curiosité envers les emprunts, les anglicismes, le verlan, les émoticônes et les innovations ordinaires. Ces phénomènes ne prouvent pas automatiquement un appauvrissement, ils témoignent des capacités d'adaptation et de création des locuteurs. Apprendre la norme devient alors un élargissement des possibilités d'expression, et non l'effacement des façons de parler existantes. En conclusion, le français n'existe pas conviendra aux lecteurs intéressés par la langue, mais aussi aux enseignants, étudiants, parents et professionnels qui associent spontanément la correction à la valeur intellectuelle d'une personne. Il est particulièrement utile à ceux qui souhaitent comprendre les débats sur l'orthographe, la féminisation, les anglicismes ou les accents sans se contenter de réflexes puristes. Sa lecture ne fournit pas un manuel de règles ni une réforme clé en main. Elle apporte plutôt des instruments intellectuels différenciés l'usage et la prescription. Replacer une règle dans son histoire, mesurer ses effets sociaux et reconnaître que les normes changent selon les situations. Le format de chronique brève, enrichi par des éclairages de linguistes et par des illustrations, rend ces questions accessibles sans les réduire à des slogans. Comparé à un essai linguistique académique, l'ouvrage privilégie la clarté, l'humour et les exemples quotidiens, comparé à un plaidoyer vague pour le laisser-faire. Il conserve une position plus précise des conventions sont nécessaires, mais elles doivent être justifiables, explicitées et proportionnées. Cette articulation entre vulgarisation, critique sociale et attention aux usages fait sa singularité. Houet et Piron ne demandent pas au lecteur de renoncer à écrire avec soin. Ils l'invitent à ne plus confondre une faute avec un défaut de pensée, ni une tradition graphique avec l'essence même de la langue française. Si vous souhaitez soutenir Arnaud Houet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.